Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. C'est en effet votre émission littéraire Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission qui aujourd'hui va s'inscrire dans le cadre du 24e Printemps des Poètes, une manifestation nationale qui a débuté il y a quelques jours et qui se terminera le 28 janvier prochain. Alors, dans le numéro d'aujourd'hui, nous avons décidé d'explorer nos archives et nous y avons retrouvé des interviews, des entretiens, tantôt avec des poètes, tantôt avec des amoureux de poésie. Et nous allons ouvrir notre émission avec l'évocation de la poétesse Marie-Noël. Vous la connaissez peut-être. Elle est née à Auxerre en 1883. Elle est née de parents auxerrois, petite fille d'un épicier de la place du marché et d'un entrepreneur du quartier du Pont, des gens aisés, propriétaires de maisons et de vignes. Marie-Noël a passé toute sa vie à Auxerre. Elle ne l'a d'ailleurs guère quittée qu'aux vacances et pour aller à la campagne, notamment dans le Morvan. Aucun grand séjour, des séjours à Paris, sans doute assez nombreux, mais jamais très longs, si l'on excepte en 1920, 3 ou 4 mois dans une maison de santé. L'œuvre poétique de Marie-Noël a d'ailleurs suscité l'admiration de deux grands écrivains, Monterland et Aragon. Alors, l'entretien que vous allez entendre a été enregistré en novembre 2017, année où nous commémorions le 50e anniversaire de la disparition de Marie-Noël qui est morte le 23 décembre 1967 à Auxerre. Et à cette occasion, il y avait eu une grande manifestation au théâtre d'Auxerre, au cours de laquelle un grand amoureux de la poésie de Marie-Noël s'était joint à la manifestation, à savoir le chanteur Hugo Frey. J'avais eu d'ailleurs le plaisir et la chance de le rencontrer et je lui avais demandé de quelle manière il avait découvert Marie-Noël et son œuvre poétique, le chanteur Hugo Frey.
Une rencontre tout à fait par hasard, je ne peux pas dire comment j'ai découvert Marie-Noël, probablement en écoutant très tard le soir France Culture, hein, il y a environ une trentaine d'années. 3 décennies à peu près. Et j'ai été émerveillé, c'était un coup de foudre, le texte que j'ai entendu, c'était extraordinaire. Je me suis renseigné et puis ça m'a conduit jusqu'ici, où j'ai rencontré évidemment la personne qui avait en charge de maintenir l'œuvre de Marie-Noël, puisqu'elle était disparue. C'est après 67, moi, que j'ai fait cette découverte. Ça a été un coup de foudre. D'autant plus que je disais volontiers à ceux qui m'interviewaient que je détestais la poésie. Pour une raison très simple, c'est que la poésie, quand j'étais enfant, moi j'ai fait des études, 8 ans d'études, j'ai fait passer le bac, j'ai fait une année de philo, et j'ai jamais entendu parler de Marie-Noël. Jamais. J'ai été pourtant 4 ans chez des moines dominicains, un collège. Ensuite, je suis parti en Espagne où j'ai fait 3 années au lycée français de Madrid avec un excellent professeur de lettres. J'ai jamais entendu parler de Marie-Noël. En revanche, j'ai entendu parler, surtout après la guerre, quand j'ai fait ma philo, des poètes qui étaient à la mode à l'époque, Paul Éluard, René Char, Aragon, etc. Et ça m'intéressait plus du tout. La poésie que j'avais aimée quand j'étais enfant, c'est-à-dire que j'avais découvert avec mes frères un peu tout seul parce qu'on ne nous l'enseignait pas à l'école, on avait découvert Rimbaud. Et Rimbaud, ben, ça commence par on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et ça finit par quand même ce qu'il a. Et ça finit quand même par son dernier... comment ça s'appelle? L'enfer... attendez, il faudra couper ça.
Une saison en enfer.
Une saison en enfer. Et ça se termine par une saison en enfer. Il est visible que le grand message de ce génie absolu qui incarne à lui tout seul toute la poésie française depuis le Moyen-Âge. Il était capable de tout faire. Il possédait parfaitement l'art d'écrire avec les rimes, avec le rythme nécessaire. Et puis tout d'un coup, il a ce langage complètement hermétique, un peu comme le chant des Maldoror de Lautréamont. Entre Rimbaud et Lautréamont, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui était fini.
Mais Lautréamont, c'est une poésie de la dissonance, une poésie de la révolte. Chez Rimbaud, elle se perçoit aussi. Chez Rimbaud, il y a quand même cette voyance rimbaldienne.
Il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression qu'on a un parcours qui nous mène à quelque chose qui se termine. Et effectivement, moi qui étais en Espagne, j'arrive en Espagne alors que j'avais l'impression qu'en France il n'y avait plus rien. Plus personne ne chantait dans les campagnes. Il n'y avait plus de folklore. Il n'y avait plus de danse. J'arrivais en Espagne, c'était sous Franco et c'est en 46. Toute l'Espagne chantait et dansait. Alors que 10 ans avant, c'était la Révolution. Des chants extraordinaires. J'ai vu là que la poésie de García Lorca n'était pas supérieure aux rimes, aux petits couplets populaires qui étaient chantés dans les villages depuis des siècles. Alors je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose en France, que la poésie avait disparu parce qu'elle n'était pas chantée.
En cela, c'est vrai que c'était la perte un peu de l'identité de la poésie. Au Moyen-Âge, les troubadours, où il y avait toujours un accompagnement musical.
L'Antiquité, ils chantaient également. Depuis l'Antiquité, les poètes ont toujours chanté. Alors, le fait de ne plus chanter, ça a été la rupture avec le contact avec le peuple. Car le peuple, il n'a pas fait d'études. Pour la plupart, ils n'ont pas des licences de lettres, ils ne sont pas des agrégés de grec ou de latin, ou bien, vous voyez ce que je veux dire. Et tout d'un coup, la poésie est devenue un art qui était réservé à une élite. Aucun ouvrier de chez Renault ne pouvait lire Mallarmé, ni Baudelaire même. Et alors, quand après la guerre, parce qu'ils avaient été résistants, Éluard et René Char sont devenus à la mode, ben je vais vous dire, il n'y a plus de rimes, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus rien de poésie.
Il y a tout de même une originalité.
Mais non.
Mais vous leur reprochez leur engagement communiste, mais...
Mais pas du tout, c'est pas ça que je leur reproche. Je leur reproche de dire qu'ils parlent pour le peuple et ils ne parlent pas au peuple. Il parle en son nom, mais c'est facile de parler au nom des gens. Moi, ce que je veux, c'est parler aux gens. Et Marie-Noël, le jour où je la découvre, j'ai vu qu'elle parlait aux gens. Sa femme de ménage pouvait lire ses poèmes et pleurer.
Alors, la poésie de Marie-Noël, vous avez parlé de la chanson, Marie-Noël, notamment dans Petit Jour,
voilà.
Raconte dans son enfance, elle a entendu les grandes personnes chanter sans arrêt autour d'elle des refrains.
Ben, il chantait aux marches du palais, aux marches du palais, il y a une tambelle fille. Voilà ce qu'ils entendaient chanter. Et la vraie poésie populaire. Qui fait pleurer les soirées devant la cheminée, les mamans qui chantaient ça à leurs enfants ou les grands-mères. Et c'est, pour moi, il y avait quelque chose de fondamental qui avait totalement disparu en France. Et je me dis, comment ça se fait qu'on n'a pas parler de Marie-Noël? Et bien malheureusement, c'est pour des raisons politiques. C'est pour ça que je vous dis, je ne reproche pas à René Char d'être communiste. Je pense que son succès a occulté celui de Marie-Noël. J'aurais préféré que, en tous les cas, ces gens-là se battent pour avoir Marie-Noël qui n'était pas marxiste, qui n'était pas communiste, mais qui était une vraie poète, une humaniste.
C'était le chanteur Hugo Frey, enregistré en novembre 2017 au Théâtre d'Auxerre. On le retrouvera d'ici quelques minutes. Nous marquons, si vous le voulez bien, un premier intermède musical et puis on se retrouve juste après. Je vous rappelle que c'est un wagon livre aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre du 24e Printemps des Poètes, manifestation nationale qui a retenu cette année une thématique audacieuse, l'éphémère. En tout cas, wagon livre n'est pas éphémère. Si, d'une certaine manière sur l'antenne, mais vous savez que vous retrouvez toutes nos émissions en podcast sur le www.yannickpetit.fr. Excellente fin de matinée à toutes et à tous sur Radio. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Revenons, si vous le voulez bien, à la vie de Marie-Noël, puisque nous avons ouvert cette émission qui s'inscrit dans le cadre du 24e Printemps des Poètes, en évoquant la poétesse auxerroise Marie-Noël. La vie de Marie-Noël fut donc en apparence celle d'une jeune fille, puis celle d'une vieille demoiselle à l'ombre de la cathédrale Saint-Étienne et de l'église Saint-Pierre d'Auxerre, sa paroisse, accomplissant ses devoirs d'État envers ses vieux parents, s'occupant des enfants du patronage, visitant les pauvres. De là, l'image d'un personnage pour scène de la vie de province au début de notre siècle. De là aussi, l'image du poète catholique élevé dans un monde dont le centre est Monsieur le curé ou Monsieur l'abbé. D'ailleurs, on va réentendre le chanteur Hugo Frey et je lui avais demandé, lui qui est totalement amoureux et passionné, touché profondément par la poésie de Marie-Noël, je lui avais demandé comment il approchait et ressentait la poésie religieuse de Marie-Noël. Hugo Frey.
Vous m'entraînez sur un terrain qui est trop complexe, parce que moi je l'ai entendu dire qu'elle était agnostique, elle-même. je ne peux pas vous affirmer que ce n'est pas dans l'interview qu'on voit en ce moment si vous regardez sur votre...
Oui, via un moteur de recherche, l'interview, ouais, pensez à l'entretien qu'elle donne à son biographe, Raymond Escoutier, en 59, c'est à
Bien sûr, mais on ne peut pas dire non plus que Brassens était anarchiste et athée. Il n'était pas anarchiste, il athée. Celui qui écrit la chanson pour l'Auvergnat, vous pensez qu'il peut être... Vous savez ce qu'il a dit, Brassens, le soir où sa maman est décédée? Sa maman n'aimait pas les chansons qu'il écrivait parce qu'elle était trouvait qu'il était trop grossier. Donc, en tant qu'italienne catholique et pratiquante, elle n'est jamais venue voir son fils sur scène. Mais le soir où elle est décédée, le fils était sur scène, Brassens était sur scène, il s'est retourné vers le bassiste pour boire un verre d'eau, puis il lui dit: « Tu sais, Nicolas, ce soir, maman est dans la salle. » Alors, si vous appelez ça un mec qui est athée, ça, moi, je marche pas.
Alors, vous écriviez à Marie-Noël ?
Ben, j'écris un petit peu à Marie-Noël, oui, pas grand-chose, probablement pour lui souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, quelque chose comme ça. Et ils m'ont dit qu'ils ont retrouvé des cartes postales que j'ai envoyées, donc ça doit être dans ce sens-là.
Rapidement, nous sommes allés ensemble avec votre compagne et votre camarade, voilà. Nous sommes allés à la maison de Marie-Noël, on a vu la chambre de Marie-Noël. Ça vous a
bouleversé? Oui, j'ai regretté un peu de ne pas y être seul dans cette chambre. J'aurais voulu rester un petit moment, réfléchir un peu, quoi. Alors, comme on était plusieurs, on était respectueux du lieu, mais enfin, les gens parlaient, etc. Ça m'a un peu empêché de vivre avec intensité l'émotion devant. Moi, j'ai vu ce lit où elle est décédée, mais j'ai vu un autre lit où un grand homme que j'admire beaucoup, qui a été aussi occulté. Parce qu'il n'y a pas que les poètes qui ont été occultés par le dadaïsme et le surréalisme de Breton et de Aragon. Il y a aussi les sculpteurs, Maillol. Il y a aussi le peintre Bonnard, qui est un très grand peintre. Et j'ai dormi dans la chambre de Bonnard.
Mais Bonnard, peut-être qu'il a eu l'erreur de partir avec un certain nombre d'artistes en Allemagne pendant l'occupation.
Non, c'est faux, ça. C'est des mensonges. Et de toute façon... ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce voyage était organisé pour libérer des prisonniers français. Je sais pas, c'est que celui qui n'a pas péché jette la première pierre.
Non, je n'accable pas. Ce sont des
interprétations mensongères. Maillol a été traité de collaborateur parce que en 1903, il fabriquait du papier, le papier Montval. En 1903, à Marly-le-Roi, à Port-Marly, avec son neveu Gaspard Maillol, il fabriquait le meilleur papier à dessiner au monde, papier Montval. Et ce papier était sponsorisé par un mécène allemand, un grand baron allemand riche, qui adorait la France, la culture française, car les Allemands ont toujours adoré la France. Et à l'époque, après 70, les Allemands, c'était des boches. Donc les gens de Port-Marly ont foutu le feu en 1914 à l'atelier d'où ils fabriquaient le... Voilà le genre de choses, vous voyez, qui sont inadmissibles. Alors ensuite, il y a eu la guerre de 40. Maillol a reçu dans son atelier parce qu'il y avait des officiers allemands qui connaissaient l'œuvre de Maillol, qui venaient le visiter. Picasso en a fait autant.
Oui.
Mais Picasso est très intelligent. Il a acheté sa carte au Parti communiste au mois de mars 1945. C'est-à-dire que les Allemands avaient déjà passé la frontière. Et c'est parti. Je vous signale que Picasso n'a fait ni la guerre de 14 qu'a fait Apollinaire, Rousseau, Blessandra.
Ou Aragon.
Il n'a pas fait la guerre d'Espagne. Il n'a pas fait la guerre de 39-40. Hein? Et puis, quand il y avait l'occupation, il a vécu à Paris, quoi. Il n'a pas eu trop de problèmes.
Marie-Noël disait « Ce que j'ai de gai en moi, je l'écris. Ce que j'ai de triste, je le chante. »
C'est très bien. Je ne savais pas qu'elle avait dit ça.
C'était son credo.
Ben voilà.
Cela vous convient ?
Ça me convient parfaitement. Moi, j'aime les œuvres dramatiques. Le mot triste ne me plaît pas trop, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Moi, quand Bach, ça ne me fait pas rigoler du tout, Jean-Sébastien Bach. Ça m'élève. Les musiques qui sautillantes, un petit peu comme ça, rococo, baroque. Est-ce que j'ose dire que les plus belles pages de Mozart, c'est les pages tragiques ? C'est la fin de sa vie. Mais tout ce qui est léger, moi, ça ne me touche pas du tout. Ou alors, ça me touche sous la forme folklorique. Quand je vois les gens qui sautillent, qui dansent la sardane, ou qui dansent la... le Musette, j'aimais beaucoup le Musette. Mais les intellectuels méprisaient totalement le Musette.
Et ce soir, au spectacle, il y aura une bourrée limousine.
Elle est au programme. Voilà, ça, j'aime bien.
En tout cas, Hugo Frey, merci de vous être associé à cet hommage national pour le 50e anniversaire.
Voilà, on a fait des dérives. En fait, je suis là pour Marie-Noël. Marie-Noël est peut-être le plus grand poète pour moi, celui qui m'intéresse le plus, le poète du XXe siècle, c'est Marie-Noël. C'est quelqu'un qui n'a fait aucune concession, qui n'a jamais été agressive, qui était tolérante. Et comme je vous le dis, c'est, pour moi, elle est humaniste. C'est l'humanisme, c'est-à-dire ni gauche ni droite. Et elle est agnostique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se permet d'insulter Dieu. Vous voyez ? Dans certaines œuvres, elle se met en colère contre Dieu.
Parce que Marie dit la touche, oui.
Voilà.
Notamment la mort de ce petit frère de 12 ans qu'elle trouve.
Donc, en fait, l'interview, c'était au sujet de Marie-Noël. Il faut qu'on parle de Marie-Noël et de Marie-Noël uniquement.
C'était le 18 novembre 2017 au Théâtre d'Auxerre. Un très beau moment au cours duquel j'avais pu m'entretenir avec le chanteur Hugo Frey, notamment autour de la poétesse Marie-Noël. Je rappelle que Marie-Noël est née à Auxerre. Elle est morte à l'âge de 84 ans. En 1967, puissent ces interventions du chanteur vous donner l'envie de redécouvrir ou tout simplement découvrir l'œuvre poétique de Marie-Noël que l'on trouve notamment aux éditions Stock, mais également dans la collection Poésie Gallimard. Wagon Livre spécial 24e Printemps des Poètes, aujourd'hui sur Radio, nous marquons un nouvel intermède musical et puis bien évidemment, nous nous retrouvons juste après.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur la nuit, sur le jeûne,
sur les coins de mon enfance,
j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits,
sur le pain blanc des journées,
sur les saisons fiancées,
j'écris ton nom.
Sur tous mes chiffons d'azur,
sur les temps soleil moisi,
sur le lac lune vivant,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux,
et sur le moulin des sombres,
j'écris ton nom.
Sur chaque bouffée d'aurore,
sur la mer, sur les bateaux,
sur la montagne des montes,
j'écris ton nom.
Sur la mousse des nuages, sur les fleurs de l'orage, sur la pluie épaisse et sable,
j'écris ton nom.
S'allume sur la lampe qui s'éteint,
sur mes maisons réunies,
j'écris ton nom.
Sur tout toucher accordé,
je détruis.
Sur mes phares écroulées,
sur les murs de mon ennui,
j'écris ton nom.
Sur l'absence sans désir,
sur la solitude nue,
sur les marches de la mort,
j'écris ton nom.
Sur la santé revenue,
sur le risque disparu,
sur l'espoir sans souvenir,
j'écris ton nom.
Et par le pouvoir de mon, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer.
Liberté.
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 Wagon Livre. Votre émission littéraire.
Place cette fois à une grande dame de la poésie québécoise. Je veux parler de Claudine Bertrand, que j'avais eu le plaisir de rencontrer dans les jardins de la Maison Jules Roy à Vézelay en août 2017. Claudine Bertrand est poète, essayiste, elle est née à Montréal, elle a publié une œuvre importante doublée d'une forte activité éditoriale. Elle a fondé en 1981 la revue Arcade, consacrée à l'écriture des femmes, et elle l'a dirigée durant 25 ans. Elle a obtenu des prix prestigieux, notamment le prix international Tristan Tzara. Elle est d'ailleurs à ce jour la seule Québécoise à avoir reçu cette distinction. Et suite à ses mois en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy à Vézelay, Claudine Bertrand a fait paraître à la fin de l'année dernière, 2021, un recueil de textes poétiques que lui ont inspiré Vézelay, sa colline, sa basilique, son décor, aux éditions de l'Harmattan, et ce recueil a pour titre « Sous le soleil de Vézelay ». Je vous propose d'entendre Claudine Bertrand, qui d'ailleurs, dans l'extrait que vous allez entendre, lit des poèmes pour la paix, et Dieu sait si notre Europe et notre monde en ont grandement besoin. Claudine Bertrand.
Souvenir de paix. Silhouette lumineuse, aussitôt apparu, aussitôt disparu, dans le vert paysage, tu te glisses au ras du réel, comme l'éveilleur de l'Éden, pour faire surgir les mots paix et univers, pour les conjuguer à tous les temps. Je lis ce poème réinventé, il résonne sur la colline éternelle et sur toutes les lèvres, se mêlant aux chants qui refusent de se taire pour éloigner la barbarie. En une langue familière, ouvrant de nouveaux horizons, le veilleur et son peuple, porteurs de siècles futurs, à l'écoute du fleuve de la vie, sculptent une humanité plus vaste, une humanité plus équitable, chargé d'amour et de paix.
Merci Claudine Bertrand pour ce texte qui appelle à la paix, à la réconciliation dans un monde qui est le nôtre et qui est quand même particulièrement troublé.
Oui.
Vous êtes sensible aux religions, à la foi, Claudine Bertrand ? Je sais que vous avez été en grande partie formée intellectuellement auprès,
ouais,
auprès de religieuses. Le Québec a,
ouais,
enfin,
a beaucoup donné de ce côté-là. En fait, ben, y a deux questions dans ce que vous me dites. Mais par rapport à la paix, je vais compléter. C'est-à-dire que la paix où je me sens concernée, que ce soit, c'est des grandes valeurs universelles, qu'elles soient défendues par le clergé ou par toute communauté spirituelle ou autre. Et la paix est au Québec aussi. Je fais partie du PEN Club. On pourrait dire c'est le centre québécois du PEN international qui sont pour défendre la cause des prisonniers politiques. Alors déjà, je suis très engagée sur ce plan-là. C'est-à-dire que je fais partie du conseil d'administration, donc ça implique, si vous voulez, de sensibiliser divers publics. Donc je vais dans les écoles, les bibliothèques, et on essaie de justement d'initier toute personne, à la fois des jeunes comme des adultes, à cette conscience un peu planétaire. Comme vous dites, c'est vrai qu'on est dans un mouvement de remuement, de chaos, mais ceci dit, la paix, elle est toujours quelque chose qui est à soutenir et à défendre. Maintenant, concernant, si vous voulez dire, mon éducation, oui, que ce soit religieuse ou autre, j'ai été pensionnaire, si vous voulez, formée par des religieuses, comme de communauté Sainte-Croix, des religieuses de Sainte-Croix, de peut-être 11 ans jusqu'à 18 ans. Et ensuite, bon, ben, j'ai fait mon parcours universitaire. Donc là, ça s'est un petit peu, décalé. Disons que la religion est toujours présente, mais peut-être sous une forme plus personnelle que reliée à telle institution, voilà. Puis au Québec, je pense que dans les années 60, on a connu la Révolution tranquille, où là, il y a eu la séparation, si vous voulez, de l'Église et de l'État.
Je voudrais mentionner pour nos auditrices et auditeurs, parce que bien sûr l'émission de ce soir n'offre qu'un aperçu de 30 ans d'écriture poétique de notre invitée Claudine Bertrand, disponible aux éditions de l'Hexagone. Il y a une anthologie qui a été faite avec, enfin c'est des choix de textes de Louise Dupré, c'est dans la collection Typo, et donc on retrouve un choix arbitraire, mais sans doute très subjectif, de Claudine Bertrand, féministe, passionnée, engagée, avec donc l'évolution aussi de la création poétique. Hein. Je dirais que votre création poétique, elle s'intéresse, on l'a dit, aux quêtes des origines, celles de l'individu, mais également celles de l'univers. Mm-hmm. La quête amoureuse, ouais. Hein, avec ses abandons, ses deuils, hein, histoire d'amour, elles peuvent être florissantes, certaines meurent, mais c'est peut-être parfois l'incontournable des histoires d'amour, elle se termine mal parfois, je ne sais pas, Claudine.
Ouais.
Oui. Et puis la quête de l'ailleurs et des ailleurs, vous vous êtes souvent rendu dans différents pays. Alors l'Europe, vous connaissez un peu l'Europe, et puis également l'Afrique, on va être amené à en parler. Mais vous avez parlé au début de l'émission de Marie-Madeleine, qui bien sûr est une figure féminine marquante ici à Vézelay, puisque la basilique porte son nom. Ouais. On a dit aussi à travers la revue Arcade, la défense d'une écriture féministe. Toutes ces femmes ont été des mères de substitution, des mères d'adoption. Mais il y a des femmes qui ont eu un rôle très important. Duras, Virginia Woolf, Anaïs Nin, Anne Hébert, Marie Cardinal, Madeleine Gagnon, Nicole Brossard, Hélène Cixous, même Denise Bombardier qui est une figure. Pourquoi cet attachement comme ça à l'écriture féminine? Elle en a vraiment besoin? Elle a besoin d'être défendue, d'être valorisée, encore aujourd'hui, en 2017.
C'est-à-dire que c'est en 2000... en quelle année? je ne sais plus. Ici, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Non, en fait, c'était dans les années 70, je dirais, où il y a eu cet éveil de la conscience féministe. Il faut dire que j'étais au début aussi de mon processus de création. Je pense que quand on commence à écrire, donc, il y a un sentiment d'appartenance, bon, d'abord à des voix qui sont proches, d'une situation que j'ai vécue en tant que femme. Donc, je pense que c'était, on défendait des causes telles que, bon, le droit à l'avortement, le droit aux garderies, le droit à l'équité salariale et autres. Donc, ça a été des questions que l'on a défendues et qu'on a pu retrouver aussi dans des écritures, que ce soit dans la fiction ou des écritures plus documentaires. J'étais journaliste aussi. Donc, je pense que des années 70, c'est là où ça a bougé beaucoup, comme on dit, une sorte de remue-ménage. Et c'était les femmes qui étaient plus présentes. D'ailleurs, c'était elles qui ont défendu une plus grande équité, même sur tous les plans, que ce soit homme, femme, qu'on soit représenté, si vous voulez, à part égale, dans tous les secteurs de la société. Et moi, comme j'étais dans l'édition, je pense que c'était important de s'affirmer comme femme pour avoir droit au chapitre. Je dis, est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est moins nécessaire parce que notre place, elle a été assumée, elle a été assurée. Et je pense que des portes s'ouvrent aussi. Donc, on a dû je dirais pas défoncer des portes, mais faire en sorte que la voix des femmes, elle était beaucoup moins présente dans les années 70, parce que quand il y avait des soirées de poésie, on disait que c'était des, souvent c'était des poètes hommes. Moi, j'ai connu peut-être une ou deux femmes, celles que vous avez nommées, elles étaient assez isolées dans leur parcours. Et après, je pense qu'on a eu besoin, disons, c'est devenu comme une communauté de femmes qui sont mises à écrire et qui ont donné la possibilité à plusieurs personnes d'écrire, à plusieurs autres femmes, dont elles le disent maintenant, ça fait partie de notre évolution. Maintenant, on écrit partout, dans tout autre lieu de revue. Je pense que ce lieu est moins important, mais ça a été bien de signifier, il fallait signifier quelque chose. Donc, c'était comme une sorte de, ben oui, on faisait une petite révolution, il fallait marquer le coup.
À l'instant, c'était la poétesse québécoise Claudine Bertrand, enregistrée dans les jardins de la Maison Jules Roy à Vézelay, en août 2017. Je rappelle d'ailleurs que suite à cette résidence d'écriture dans Lyon à Vézelay, de fin juin au 25 août 2017, Claudine Bertrand en a produit un recueil de poèmes intitulé « Sous le ciel de Vézelay » disponible aux éditions de l'Harmattan. Nous marquons une nouvelle pause musicale. Je vous propose d'écouter « Le pont Mirabeau » interprété par Marc Lavoine. « Le pont Mirabeau », un célèbre poème de Guillaume Apollinaire.
Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Wagon Livre, Votre émission littéraire.
À l'instant, le célèbre poème de Guillaume Apollinaire, Le Pont Mirabeau, mis en chanson et interprété par Marc Lavoine. Toujours dans le cadre du 24e printemps du poète, nous nous promenons et revisitons les archives de votre émission littéraire. Nous allons cette fois-ci nous tourner vers un autre poète. Je veux parler de Jacques Prévert. Jacques Prévert qui est né en 1900, qui est mort en 1977. Et nous allons entendre deux de ses poèmes chansons interprétés par la chorale de la Compagnie du Globe. C'était à l'issue du deuxième festival littéraire et printanier des Portes du Morvan, qui était organisé par Hervé Collin, directeur de la Compagnie du Globe, qui avait retenu pour son édition de 2014 l'œuvre poétique de Jacques Prévert, associée d'ailleurs au thème de l'arbre. Et à l'issue de la remise des prix, eh bien, vous allez tout de suite entendre deux interprétations de poèmes du poète malicieux par la Compagnie du Globe. D'abord, la fête continue, puis les célèbres, les feuilles mortes.
Debout devant le zinc, sur le coup de visage,
un grand plombier zingueur habillé en dimanche et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul. Chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en casque, la guerre est finie et le travail aussi, que la vie est si belle et les filles si jolies. Et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron.
Trois paysans passeront et vous paieront,
puis disparaît dans le soleil, sans régler les consommations, disparaît dans le soleil, tout en continuant sa chanson.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement.
Poème chanson de Jacques Prévert que vous venez d'entendre à l'instant, La fête continue et les feuilles mortes interprétées par la chorale de la Compagnie du Globe enregistrée en avril 2014 dans la Nièvre à l'Orme à l'issue du festival printanier et littéraire des Portes du Morvan. Je vous encourage d'ailleurs à découvrir le site de la Compagnie du Globe que dirige Hervé Collin via internet sur le www.compagnieduglobe.com. Comme. Si je suis poète ou acteur, ce n'est pas pour écrire ou déclamer des poésies, mais pour les vivre. C'est ce qu'a écrit Antonin Artaud. Antonin Artaud, que nous connaissons essentiellement comme quelqu'un qui a révolutionné la dramaturgie au début du XXe siècle, mais Antonin Artaud était aussi un grand poète. Antonin Artaud est né en 1896, il est mort en 1948 et il est vrai que toute son œuvre est une aventure qui englobe et dépasse la poésie. Pour parler d'Antonin Artaud, je vous propose de réentendre un numéro de Wagon Livre diffusé en mai 2018 avec Laurent Vignat, qui est professeur de lettres en Saône-et-Loire et qui, en 2018, a fait paraître aux éditions du Jasmin une biographie consacrée à Antonin Artaud, biographie qui avait pour titre « Antonin Artaud, le visionnaire hurlant ». Et je vous propose de redécouvrir un petit bout du parcours d'Antonin Artaud, notamment lorsqu'il arrive à Paris au début des années 20. Laurent Vignat.
Alors pour commencer, donc quand il arrive à Paris en 1920, donc il est accueilli par le docteur Édouard Toulouse, qui donc l'accueille, qui est médecin à l'asile de Villejuif. Mais là, il n'est pas interné, il vit simplement à côté chez le docteur Toulouse. Et ce docteur Toulouse fait partie de ces aliénistes ou psychiatres qui considèrent que la meilleure thérapie, c'est très moderne d'ailleurs, la meilleure thérapie, c'est d'emmener les malades au théâtre, de leur faire faire de la peinture et de leur faire faire de la poésie. Et donc Artaud lui arrive avec ses manuscrits parce que bon, la poésie, il a commencé à écrire dès l'âge de 15-16 ans. Et le docteur Toulouse l'envoie rendre compte de petites expositions. Le docteur Toulouse était aussi directeur d'une revue, qui s'inspire d'ailleurs des doctrines hygiénistes de l'époque, de gens comme Pierre de Coubertin, considérant que l'art, la culture du corps pouvait donc améliorer l'état psychique des malades. Donc Artaud va voir ses premières expositions de peinture et en particulier il va écrire en 1920 une note absolument prodigieuse sur le peintre Modigliani. Donc c'est quelqu'un qui va sentir l'art contemporain en train de naître et surtout Toulouse lui conseille de prendre des cours de théâtre. Et donc pour ce faire, il va s'inscrire dans la troupe de l'atelier de Charles Dullin, homme très important du théâtre de l'avant-guerre. Hein. Charles Dullin, on le connaît tous parce qu'il a immortalisé la gare des Michards avec cette figure d'Harpagon. Les plus anciens se souviendront de ces images qu'on avait dans les classiques Larousse. On voyait Charles Dullin en Harpagon. Et Dullin, c'est une personne un petit peu qui annonce les expériences théâtrales de 68, puisqu'on parle beaucoup de 68 en ce moment, des gens comme Mouchkine par exemple, puisqu'il crée une communauté autour du théâtre où quand on s'engage dans le théâtre, il y a les cours de théâtre, il y a la représentation, mais il y a aussi les fabrications du décor, la gestion administrative, etc. Donc Artaud rentre dans la troupe de l'atelier et au départ il est pris un peu comme une sorte d'énergumène assez étrange, et d'ailleurs Dullin s'en plaint beaucoup et au départ lui donne simplement à faire que des bruitages, et Artaud se paraît absolument incroyable puisqu'il est capable avec rien qu'avec sa bouche de faire un bruitage de foule, et il va beaucoup marquer ses contemporains à cause de cette prédisposition. L'époque aussi de Dullin, c'est aussi le moment où il va rencontrer une jeune femme très importante pour lui qui s'appelait Jenica Athanasiou. Donc ce sera sa première relation amoureuse, on aura peut-être l'occasion de reparler puisque la vie amoureuse d'Artaud fut assez complexe. En tout cas, c'est une relation qui va durer quelques années, qui va donner lieu à une très belle correspondance. Elle était elle-même comédienne originaire de Roumanie. Et on peut tout de suite dire que cet amour naissant sera assez rapidement gâché par le problème de la drogue. Et ça, c'est aussi un dernier point dont il faut souligner et qui va poursuivre Artaud, qui sera un petit peu le contrepoint de sa souffrance psychique, c'est que dès l'âge de 18 ans, donc à l'époque où il est hospitalisé à la clinique de Neuchâtel, le docteur Dardel lui prescrit du laudanum pour la première fois. Laudanum, c'est un dérivé de l'opium. Et Artaud lui-même remonte sa dépendance à cette date précise de 1918. Et à partir de là, il ne pourra plus jamais se passer de drogue pour supporter ses états psychiques.
Alors il écrit, il est aussi poète. En 1923, c'est 1925, Gallimard donc fait paraître l'ombre.
Alors là, il faut parler un tout petit peu de cette histoire parce que c'est assez étonnant. Oui, il est poète. Simplement, en 1923, il envoie des poèmes à la NRF, alors qu'il vient de renaître après la Première Guerre mondiale et dont le directeur de publication est Jacques Rivière, hein, qui fut dont l'épouse était la sœur d'Alain Fournier, hein, pour situer un tout petit peu les choses. Donc Rivière reçoit ses poèmes et il ne les trouve pas bons. Et il est vrai qu'en le lisant aujourd'hui, on les trouve nous-mêmes un peu pâteaux, un peu précieux.
Puis Rivière est un peu impressionné par Artaud.
Pas tout de suite. Alors, donc, Rivière se annonce, donc écrit à Artaud en lui disant, voilà, je refuse vos poèmes parce qu'ils ne semblent pas être à la hauteur de la NRF. Et là, Artaud se met à écrire une lettre de réponse dans laquelle il explique pourquoi ces poèmes sont mauvais. C'est-à-dire qu'effectivement, il rend compte de cette effroyable maladie de mon esprit, c'est la citation, et il se met à faire un autodiagnostic de son mal, et Rivière est absolument subjugué par la fermeté à la fois de l'analyse, la beauté du style, et il décide non pas de publier les poèmes, mais de publier ces lettres qui justifient la qualité très moyenne des poèmes. Et c'est ainsi que Artaud entre en littérature, donc par la grande porte, la NRF, par un refus d'éditeur. Donc c'est une rentrée assez étonnante. Et donc c'est le début de sa carrière littéraire, puisqu'en 1924 est publiée cette correspondance entre Jacques Rivière et Antonin Artaud, laquelle correspondance va interpeller un personnage qui est en train de prendre son importance dans ces Paris de l'après-guerre, qui est donc André Breton, qui va donc découvrir cette correspondance et il va tout de suite inviter Artaud chez lui pour faire la connaissance.
Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, Laurent Vignas, c'est que Antonin Artaud est le créateur d'un genre littéraire, enfin, c'est la lettre interpellation.
Oui.
Vous ont donné un petit extrait, là, c'est page 49 dans votre... Je ne sais pas si vous voulez
nous le lire
volontiers.
Lettre interpellation. Alors, donc voilà, c'est donc... Artaud sera un grand épistolier. Il va écrire beaucoup de lettres. Et cette lettre interpellation, c'est-à-dire qu'on va d'un seul coup écrire à une institution, à un pouvoir, pour dire ce qu'on en pense. Donc voici un exemple d'une lettre qu'il écrit en 1923 sur la loi sur les stupéfiants. Lettre à Monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants. Monsieur le législateur. Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémentée du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. Voilà, donc l'idée c'est qu'effectivement, ça c'était déjà une activité surréaliste, c'est de jouer sur le décalage entre le style administratif et d'un seul coup cette insulte qui devient à la fois incongrue et assez efficace.
Artaud va donc rapidement intégrer le groupe des surréalistes, dominé par la figure du pape des surréalistes, André Breton. Enfin, on rentre chez les surréalistes comme on en est exclu très rapidement. Artaud n'est pas frotté de politique, alors que finalement les surréalistes vont très rapidement s'aligner sur l'expérience communiste de l'Union soviétique. Artaud, lui, la politique, ça ne l'intéresse pas beaucoup.
Alors, pour revenir un tout petit peu sur l'aventure surréaliste, elle est très ambivalente. C'est qu'effectivement, en 1924, donc Artaud est intronisé dans le groupe avec donc Breton, Aragon, Philippe Soupeau. Et c'est une époque où le surréalisme est en train de vivoter. Alors je rappelle, sur le plan simplement de la théorie littéraire, le surréalisme est issu du dadaïsme. Et Breton veut sortir un petit peu du côté bonne rigolade, bonne pochade, et faire du surréalisme quelque chose de sérieux, vraiment de véritablement sérieux, qui part de la société. Et donc quand il rencontre Artaud, il se dit, tiens, moi je tiens peut-être l'individu qui va pouvoir redonner, qui va donner en fait qui va lester le surréalisme d'une chose beaucoup plus importante, beaucoup plus dense que ce que c'était le dadaïsme. Et donc c'est ce que va faire Artaud, puisqu'il va tout de suite s'embarquer dans l'écriture de la revue La Révolution surréaliste, la fin de l'ère chrétienne, et là Artaud va définir ce qu'est pour lui le surréalisme. Alors on rappelle, 1925, c'est l'apparition du premier manifeste du surréalisme. Pour Breton, le surréalisme, c'est simplement la communication directe avec l'inconscient par le verbe, par la poésie. Artaud reprend à sa charge le surréalisme, dont je rappelle que le mot était une invention d'Apollinaire, mais en lui donnant une dimension beaucoup plus métaphysique. C'est-à-dire que pour Artaud, le surréalisme passe par une refondation complète de l'esprit humain. Et il faut que l'esprit humain retrouve son aspect métaphysique, c'est-à-dire sa spiritualité, pour le faire rapidement. Alors que pour Breton, le surréalisme doit forcément être confronté à la société. Et donc, dès le départ, dès 1924-25, il va y avoir une scission entre Artaud et Breton, Artaud étant une vision beaucoup plus spirituelle, mystique, du surréalisme, alors que Breton beaucoup plus politique. Et en 1926, Artaud se fait exclure du groupe surréaliste parce que jugé non marxiste. Entre-temps, effectivement, le surréalisme avait totalement fait sienne les théories marxistes. Il ne faut pas oublier l'influence de la révolution russe sur les intellectuels français. Et donc, à partir de là, c'est l'exclusion d'Artaud.
C'était à l'instant Laurent Vignat pour évoquer une facette de la vie et de l'œuvre de Antonin Artaud, que nous connaissons effectivement surtout comme un grand homme de théâtre, quelqu'un qui a révolutionné la dramaturgie du théâtre français dans la première moitié du XXe siècle. Mais il ne faut pas oublier qu'Antonin Artaud était aussi un grand poète. Je rappelle qu'Antonin Artaud est mort en 1948 et que ses œuvres complètes sont disponibles chez Gallimard. On y retrouve effectivement différents recueils d'Antonin Artaud. Mentionnons l'Ombilique des Limbes, le Pesner, l'Art et la Mort, sans oublier aussi tous les textes surréalistes jaillis sous la plume d'Antonin Artaud. On n'a pas eu le temps, malheureusement, mais il eût été intéressant de pouvoir vous diffuser un extrait de la lecture de Pour en finir avec le jugement de Dieu, lu par Antonin Artaud lui-même. C'est particulièrement original et savoureux. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. Et puis concernant le Printemps des Poètes, je ne peux que vous encourager à vous rendre sur le site officiel internet Le Printemps des Poètes, où vous pourrez découvrir toutes les manifestations organisées dans les théâtres, dans les librairies, dans vos départements respectifs, ainsi qu'en région. Il y a un programme extrêmement riche et les manifestations sont nombreuses. Pour notre part, rendez-vous samedi 26 mars prochain. Nous resterons toujours dans le cadre du Printemps des Poètes qui sera terminé depuis seulement quelques jours, mais nous continuerons à parler poésie et poètes dans notre émission littéraire Wagon Livre chaque samedi à 11h sur Radio. Un très grand merci à toutes et à tous. Excellent congé de fin de semaine une fois de plus. Et puis je vous rappelle que si vous voulez réécouter cette émission ou si vous en avez manqué le début, vous la retrouvez dans son intégralité sur notre site d'archives yannickpetit.fr. Un grand merci à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.